Hallo, coucou tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode de mon podcast Une blonde en Norvège. Donc là, je suis toujours dans la série liée à l'intégration. Et donc ce deuxième épisode concerne le gros bloc de trouver un travail en Norvège. Alors cet épisode est complètement lié évidemment au premier épisode sur comment s'installer en Norvège et aussi complètement lié au prochain épisode qui concerne l'apprentissage de la langue. Au début d'ailleurs, je voulais faire les deux épisodes, celui-ci à propos du travail et puis celui sur l'apprentissage de la langue ensemble, parce que c'est à mon sens complètement lié, mais celui sur l'apprentissage de la langue sera un petit peu plus long, je pense, parce que j'ai pas mal de conseils à vous donner, pas mal de choses que je découvre en fait moi-même là au fil de mon apprentissage, et j'aurais aimé en fait avoir ces conseils là quand j'ai commencé, donc du coup je ferai un épisode à part. Donc celui-ci c'est juste sur comment trouver un travail. Donc j'espère que le son est bien, là je suis dans mon jardin, mais il y a un peu de vent, donc j'espère que vous m'entendez bien. Alors, comme je vous disais dans le premier épisode sur l'installation en Norvège, la vie est tellement chère en Norvège que de toute façon, on reste pas en Norvège bien longtemps si on n'a pas de travail. Déjà parce que financièrement, les économies partent très très vite, et puis aussi surtout parce qu'au niveau administratif, de toute façon, c'est pas légal, c'est pas autorisé de rester en Norvège si on n'a pas de travail. Donc ça, j'en ai quand même pas mal parlé dans le premier épisode. Il y a les fameux trois mois de tourisme, et au-delà de ces trois mois de tourisme en Norvège, si on trouve pas de travail, on ne peut pas rester. Donc le gros conseil que je vous donne, qui est aussi lié à l'intégration en général, c'est en gros c'est d'avoir un projet quoi, c'est de vraiment prévoir avant. Dans mon histoire perso que je vous ai racontée, je vous ai dit que moi j'avais mis 4 ans. Bon alors c'est extrême, hein, je dis pas qu'il y a besoin de 4 ans. Nous on avait besoin et envie de prendre le temps parce que on avait besoin de rester encore un petit peu à Paris. Mais en tout cas, on n'est pas parti sur un coup de tête, on a bien préparé. Et du coup, pour le côté trouver un travail en Norvège, la préparation principale, c'est déjà de réfléchir à votre activité. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez arriver en Norvège ? Est-ce que vous allez essayer de rester dans le même domaine que celui dans lequel vous êtes en France ? Et si oui, est-ce que vos diplômes que vous avez obtenus en France sont reconnus en Norvège ? Ça, c'est un point très très important. Et si oui, s'ils sont reconnus, est-ce qu'ils le sont automatiquement ? Est-ce qu'il y a des démarches à faire ? Est-ce qu'il faut faire des formations pour obtenir des équivalences, ne serait-ce que pour faire reconnaître vos diplômes, faut les faire traduire par des traducteurs certifiés, donc c'est un budget aussi, ça coûte un petit peu de sous, donc tout ça faut prévoir. Est-ce qu'il faut faire traduire vos documents en anglais par exemple, si jamais c'est une boîte internationale, c'est possible, ça peut suffire, ou est-ce qu'il faut les faire traduire en norvégien, etc. Enfin tout ça c'est des points sur lesquels il faut que vous vous renseigniez absolument avant de partir. Si jamais vous souhaitez rester dans votre domaine, il faut quand même analyser un petit peu la situation. Est-ce qu'il y a du travail dans votre domaine? Si oui, où? Parce que la Norvège, évidemment, c'est pas du tout la même vie si vous habitez à Oslo ou dans une grande ville, et si vous habitez à la campagne. Et si vous êtes déjà venu en voyage, en vacances en Norvège, vous avez bien remarqué qu'il suffit de faire quelques kilomètres autour des grandes villes, des grandes agglomérations, des agglomérations en général, même pas grandes, pour se retrouver au milieu de nulle part et avec rien quoi. Donc là, ça peut être vraiment difficile de trouver un travail dans votre domaine, ou alors vous allez devoir faire beaucoup de kilomètres tous les jours pour vous y rendre, etc. Si vous avez un projet, comme moi, de vous mettre en l'équivalent d'auto-entrepreneur, en indépendant, ça vaut vraiment le coup de venir avant et de faire une étude de marché. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a cherché en fait s'il y avait des cours de musique, du boulot en vidéo, etc. On a vraiment étudié la situation déjà pour savoir si c'était possible de travailler dans nos domaines respectifs avec mon copain. Et puis aussi, ça a joué sur, évidemment, sur le lieu. Où est-ce qu'on va vivre en fait. Ça, c'est assez déterminant parce que si vous avez envie de changer de vie, Oslo, c'est pas forcément le... Moi, j'adore aller à Oslo, hein. Je trouve que c'est hyper chouette, mais Oslo, c'est pas la Norvège, quoi. Donc, ça reflète pas forcément la vie en Norvège. Donc, si vous avez d'autres envies, comme moi, par exemple, qui ai quitté Paris parce que j'en avais marre de la ville, même si Oslo, c'est une ville très calme, très sympa, une capitale très agréable, ça reste une ville. Donc, nous, on ne voulait pas aller là-bas. Enfin, bref. Donc, tout ça, ça se prépare, en fait. Il n'y a pas 36 solutions. Hein. Il faut venir sur place et puis se rendre compte. Il n'y a que là, il n'y a que en étant sur place et en rencontrant les gens et en analysant un petit peu la situation sur place que vous vous rendrez compte de la possibilité de votre projet ou pas, en fait. Et puis, le dernier point, c'est, ça recoupe un peu ce que j'expliquais dans le premier épisode sur l'intégration, c'est, est-ce que vous avez des économies? Et si oui, est-ce que vous en avez assez le temps de trouver un travail avant que vraiment, par exemple, au bout de ces 3 mois, vous ne pourrez pas rester, ou 6 mois si vous trouvez un travail, mais... pas les deux dans le couple, etc. Donc ça, c'est un calcul à faire aussi. Il faut que vous connaissiez un petit peu la valeur des choses en Norvège pour pouvoir établir un budget, pour pouvoir savoir de combien vous avez besoin pour vivre quelques mois le temps de trouver un travail, en fait. Donc ça, c'est un petit peu les conseils que je donnerais à faire avant de venir en Norvège. Et puis après, une fois qu'on est en Norvège, même si on a fait tous ces points-là, ce qui a été mon cas, ça reste pas forcément facile. Moi, c'est vrai que je parle presque tout le temps de la Norvège en positif, mais c'est vrai que l'expérience travail, pour moi, en Norvège, ça a été un point vraiment difficile parce que j'ai galéré, j'ai vraiment galéré. Et c'est toujours pas totalement réglé, je vais vous raconter ça. Donc, et je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là, c'est aussi pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à rester, hein, qui restent pas, qui viennent quelque temps et puis qui repartent parce que même si la vie en Norvège leur plaît, etc., il y a trop de difficultés en fait. Il y a trop de challenges et il y a beaucoup de gens qui se découragent. Donc c'est en ça que le conseil de préparer son projet avant peut vraiment changer la donne et peut faire que votre projet va réussir en fait. Donc c'est vraiment important. Nous en fait avec mon copain, on a tellement eu le coup de cœur pour la Norvège et on tenait tellement à ce projet qu'on a vraiment voulu tout faire, tout mettre en place pour que ça marche en fait. On s'est vraiment... préparé comme des oufs avant, battu quand on était ici pour rester, etc. Donc faut vraiment bien se préparer. Et puis moi je m'étais dit, moi mon problème c'est que comme je bosse en audiovisuel, mon métier de base c'est le montage vidéo. Donc pour ceux qui connaissent pas exactement les différentes branches de l'audiovisuel, mon métier c'est de récupérer les images que les caméramans sont allés filmer dehors et je fais le montage vidéo, donc je coupe, je rassemble les images, j'ajoute les commentaires des journalistes, la musique, je fais le mix audio, etc. Donc moi mon gros problème c'était que quand je fais du montage vidéo par exemple, je dois il y a quelqu'un qui est interviewé, donc qui parle, et moi je dois couper ce que dit cette personne-là. Donc, je dois comprendre tout ce qui s'y dit, évidemment, parce que je peux pas couper quelqu'un au milieu d'une phrase, etc. Donc, pour moi, malheureusement, impossibilité de travailler dans cette branche-là sans parler norvégien, pas forcément couramment, hein, mais avec un niveau, il fallait un niveau quand même relativement correct. Donc impossible pour moi de travailler là-dedans au début, c'était pour ça que... Mais je le savais, hein, ça on avait anticipé évidemment. Donc nous on était totalement prêts au fait de faire des petits boulots en fait. Moi je m'étais dit, j'irai bosser dans un resto, je ferai la plonge ou je serai serveuse. Enfin, il n'y avait aucun souci avec ça, ça faisait partie du côté intégration. J'étais carrément prête à faire ça... en même temps que l'apprentissage de la langue, en fait. Sauf que même ça, c'était compliqué. Pourquoi c'était compliqué ? Parce que quand je me suis retrouvée à faire les... Déjà, rien que pour faire mon CV, donc moi, j'ai fait quelques petits boulots avant mes études, et puis après pendant mes études, genre l'été à Paris, etc., mais j'ai eu la chance de travailler tout de suite en audiovisuel à Paris, juste après mon BTS. Donc en fait, j'ai toujours travaillé en audiovisuel. Donc j'ai fait 10 ans en audiovisuel à Paris. Donc j'avais quelques petites expériences d'autres boulots, dont un, j'avais été vendeuse, serveuse dans une brioche dorée à Paris, sur les Champs. Donc c'était ma seule expérience dans un espèce de café-bar-resto. Donc du coup, sur mon CV, il n'y avait que de l'expérience audiovisuelle. Donc mon CV, je l'ai fait en anglais au début. Et en Norvège, on fait beaucoup de candidatures spontanées, en fait. Parce qu'il y a très peu de... Il y a quelques sites internet sur fin.no, sur LinkedIn aussi, il y a quelques trucs, mais la plupart, c'est sur fin. Et puis sur les agences d'intérim, il y a des postes de petits boulots comme ça, mais c'est vrai que ça marche aussi beaucoup en candidature spontanée, donc je me suis dit, il n'y a pas de souci, je vais faire ça. Donc j'ai imprimé tous mes CV. Et puis du coup, quand je me suis retrouvée à rencontrer les gens et à expliquer que je cherchais du boulot et tout ça, c'était un peu bizarre parce que déjà quand ils voyaient mon CV, ils ne comprenaient pas trop pourquoi je démarchais dans un café-resto et tout avec l'expérience que j'avais en télé, et puis du coup j'avais pas d'expérience en café-resto, etc. Mais surtout, je parlais pas du tout norvégien quand je suis arrivée, enfin, tout petit peu, j'avais même pas un niveau A1, je pense, je parlais vraiment que quelques mots. Donc du coup, ils m'ont dit, mais nous ici, c'est pas Oslo, c'est Tønsberg. Donc l'été, c'est un petit peu touristique, il y a des gens en vacances. Mais moi, j'avais démarché pendant l'hiver. Donc ils m'ont dit, nous, nos clients, c'est que des Norvégiens, quoi. Donc les commandes, tout se fait en norvégien. Elle me dit, ça va, je pense, poser problème de prendre les commandes en anglais. Peut-être que, même si les Norvégiens adorent parler anglais en général, du coup, les gens qui embauchent m'ont dit, nous, on n'est pas très à l'aise avec le fait d'embaucher quelqu'un qui va être au contact tous les jours pendant 8 heures avec les clients qui ne parlent pas du tout norvégien, en fait. Ce que je pouvais évidemment comprendre. Donc voilà, j'ai été confrontée à cette difficulté-là. Il y avait que les plans, du coup, genre faire la vaisselle, faire la plonge et tout ça. Du coup, j'ai demandé aussi, mais j'ai pas trouvé. J'ai fait tous les restos du centre-ville de Tønsberg et puis sur les quais et tout ça. J'ai jamais été recontactée. J'avais même essayé de postuler dans des boîtes pour faire des ménages. Et ça a pas marché non plus. Il m'avait pas rappelé, donc j'ai un petit peu tout essayé. Et puis quand ça marchait pas, du coup je me suis dit, bon, je vais quand même essayer plutôt de développer à fond ma société. Et puis du coup j'ai eu quelques plans photos. Ça c'est pareil, c'est un truc qu'il faut absolument que vous considériez, peut-être que vous allez trouver un boulot très intéressant, très bien payé dans votre domaine, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, hein, pas, je dis pas ça du tout. Je dis juste que ça ne va être pas facile. Mais en tout cas, pour moi, l'intégration en Norvège, ça m'a demandé de me reconvertir, parce qu'au final, je fais mon métier de base que j'aime, mais ça m'a demandé de m'ouvrir et de faire d'autres choses. Par exemple, je fais de la musique, je chante et je fais de la batterie. J'ai sorti un album il y a 5 ans. Et en fait, quand je suis arrivée en Norvège, du coup, on a rencontré quelques Français à Oslo, de la communauté française d'Oslo. Et en fait, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé si je donnais des cours de chant. Donc j'ai dit non, parce que j'en donnais pas. Je chante, j'ai toujours chanté, mais j'en prenais moi-même à Paris. Et j'ai jamais donné de cours de chant, donc je voulais pas faire n'importe quoi. Donc j'ai dit non, mais on commençait vraiment à me demander beaucoup. Donc je me suis dit, c'est un peu con, parce que là, on me propose du boulot. J'en cherche, mais je dis non, parce que je suis pas à l'aise. Donc, comme ça correspondait avec la période où je suis un petit peu rentrée en France pour retravailler un petit peu, du coup, à M6, mes anciens collègues ont été des amours. Je les ai un peu appelés en disant « il faut absolument que je rentre bosser un petit peu, là, parce que je suis à sec, j'ai plus de sous. » Donc, c'était cool. Ils m'ont dit « y a pas de souci, viens, on va te faire bosser quelques piges, etc. » Donc j'ai eu plusieurs semaines de taf, donc c'était cool. Et j'en ai profité pour recontacter mon prof de chant de l'époque, Marc Marian. Si tu écoutes ce podcast, Marc, gros bisous. J'ai donc rappelé mon prof de chant et je lui ai demandé s'il voulait bien me donner des cours, mais de pédagogie. Donc là, j'ai pris pendant plusieurs mois des cours sur la pédagogie, en fait, pour devenir prof de chant. Et c'était vraiment très très intéressant, je me suis vraiment passionnée par le sujet, ça m'a appris plein de choses, j'ai acheté des dizaines et des dizaines de bouquins, j'ai lu pendant des mois et des mois, enfin c'était vraiment très intéressant, et du coup quand je suis rentrée en Norvège, j'ai commencé à donner des cours de chant. Donc ça c'était super, ça faisait partie aussi un petit peu du côté reconversion, parce que finalement c'était quelque chose de complètement différent que je faisais pas quand j'étais en France et que j'avais pas du tout envisagé en fait. J'ai vu une opportunité et du coup j'ai agi pour pouvoir m'en servir. Donc ça c'est un truc qu'il faut absolument faire quand on arrive en Norvège si on a vraiment le désir de s'installer, de s'intégrer et de réussir. C'est qu'il faut pas se fermer aux opportunités parce que peut-être vous n'allez pas réussir à faire exactement ce que vous aviez voulu, mais peut-être qu'il y aura d'autres possibilités qui, au final, vous amèneront quelques temps après, quelques mois, peut-être quelques années après, à ce que vous vouliez faire. Donc, il ne faut vraiment pas se fermer là-dessus. Donc, moi, j'ai fait des cours de chant. J'ai commencé aussi à faire de la photo, donc professionnellement, parce que j'ai fait des sessions photo pour des artistes, par exemple, pour des couvertures d'albums, etc. Donc la photo, en France, j'en faisais, mais en loisir. Donc là, c'est pareil, j'ai un peu retravaillé le truc, la technique, j'ai racheté un peu de matos et tout. Donc ça, c'était aussi intéressant. Mais du coup, voilà, j'ai essayé de développer mes activités perso liées à ma société en nom propre, en fait. Pour revenir au côté petit boulot, à Oslo, c'est plus facile. C'est plus facile pour plein de raisons. Déjà, c'est la capitale, c'est plus touristique. Donc, c'est plus facile de trouver un boulot, un petit boulot dans un resto, dans une boulangerie. Je sais que le secteur... du coup, boulangerie, pâtisserie à Oslo est assez développée. Il y a pas mal de Français qui ont des grosses sociétés et il y a pas mal de Français qui passent, qui sont soit en stage, soit en CDD, soit qui au final sont embauchés. Donc ça, c'est cool. Pour ceux qui sont dans ce domaine-là, il y a un petit peu plus d'opportunités. Et donc, à Oslo, c'est plus facile de trouver un boulot en tant que serveur pour quelques mois, par exemple, pendant la saison, pendant l'été, ou même à l'année. À l'année, c'est vrai qu'à Oslo, c'est plus facile. À Bergen aussi, un petit peu moins, je crois, qu'à Oslo, mais à Bergen, c'est un peu plus facile aussi, de par le côté touristique, évidemment, c'est possible de parler anglais. Alors, par contre, je reviens sur l'anglais. Si vous voulez venir vous installer en Norvège, que vous ne parlez pas norvégien, ça peut se régler après. Mais si vous parlez pas anglais, que vous parlez que français, là, ça va être très très compliqué. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens sur les groupes, sur Facebook, etc., qui posent des questions comme ça. J'ai quand même un petit peu de mal à concevoir une intégration et une installation à l'étranger sans parler anglais. À moins que vous trouviez dans une boîte francophone. Mais bon, même si c'est une boîte française francophone qui est installée à l'étranger, vous serez quand même de toute façon amené à devoir parler anglais. Donc j'ai quand même quelques doutes sur la réussite de projet pour les profils qui ne parlent pas anglais. En tout cas, il y a le voisin qui vient de se mettre à tondre la pelouse, j'espère que ça vous dérange pas trop, que ça s'entend pas trop fort. En tout cas, voilà, il y a des boîtes internationales à Oslo. Donc c'est vrai que il y a des expats qui sont envoyés aussi depuis les boîtes françaises à Oslo pour travailler en Norvège sans parler norvégien, qui parle que anglais et pour qui ça se passe très bien. Donc encore une fois, c'est pas impossible du tout. Par contre, un petit conseil aussi, si jamais vous avez un profil où vous parlez très bien anglais et où vous êtes embauché dans une boîte internationale à Oslo ou ailleurs, ou une boîte norvégienne mais pour qui ça pose pas de problème de parler que anglais, si vous voulez vraiment rester dans cette boîte à long terme ou à moyen terme, montrez quand même que vous faites l'effort de commencer à apprendre le norvégien. Parce qu'en fait, les Norvégiens sont, en règle générale, assez indulgents, assez patients. Mais s'ils sentent que vraiment vous en avez rien à cirer du norvégien et que ça vous branche pas du tout de l'apprendre, je pense que ça risque de poser problème, même si au final, dans votre travail, vous ne l'utilisez pas. Pour le côté social et intégration, je pense que c'est hyper, hyper important et je pense que ça va jouer sur le regard que va avoir vos collègues, sur vous, le patron, etc. Enfin, je pense que c'est vraiment très important de montrer que vous vous y intéressez et que vous êtes en cours d'apprentissage, en fait. Alors après, si vous êtes en contrat expat où vous savez que vous allez rester que 2 ou 3 ans, bon, là c'est autre chose, hein, c'est un autre profil. Là je parle pas du tout pour ces personnes-là, parce que là évidemment je comprends tout à fait qu'on ne se lance pas dans l'apprentissage du norvégien si on sait que 2 ou 3 ans plus tard on va partir dans un autre pays, etc. Donc ça c'est pas du tout le profil. En tout cas, pour revenir à mon expérience personnelle, du coup, moi, j'ai fait comme ça pendant 3 ans, en apprenant le norvégien, mais j'ai pas fait tout bien comme il fallait. Ça, je vous en parlerai dans le prochain épisode, hein, sur l'apprentissage de la langue. Mais du coup, j'ai fait j'ai fait des choses qui ont fait que j'ai pas avancé très vite, en fait, qui ont fait que j'ai atteint un niveau B1 que au bout de 3 ans, en fait, parce que du coup, bah, comme j'étais très occupée pour développer mes projets perso de audiovisuel, en fait, pour travailler, du coup j'avais peu de temps pour le norvégien. Et puis c'est ça coûte cher aussi, les cours, etc. Donc du coup ça m'a pris du temps. Bref, je suis arrivée, on va dire, à peu près à un niveau B1 au bout de 3 ans. Et en fait c'est seulement à partir de ce moment-là que j'ai eu des opportunités de boulot qui se sont ouvertes. Je dirais que tout s'est un petit peu décanté à partir du moment, tout simplement, où j'ai été capable de faire des entretiens d'embauche en norvégien. Alors avec un niveau B1, les entretiens d'embauche, c'est c'est pas du gros niveau, hein, c'est du, on fait plein de fautes, enfin c'est vraiment un début de conversation qui se tient, quoi, on va dire. Mais en tout cas, ça suffisait pour passer un entretien d'embauche. Et c'est que à partir de ce moment-là où j'ai trouvé du boulot. D'ailleurs, j'avais été prise pour un travail justement de serveuse dans un resto. Donc au bout de 3 ans seulement, hein, en ayant un niveau B1. Et la chaîne de télé pour laquelle j'avais toujours rêvé de travailler, en fait, que j'avais toujours jusqu'à présent, pendant ces 3 premières années, je les ai toujours démarchées en anglais. Là, je me suis dit, allez, je me lance, je vais les démarcher en norvégien et puis on verra bien. Et en fait, c'est à ce moment-là seulement qu'ils m'ont répondu. Et c'était ouf parce que j'ai galéré pendant 3 ans. À chercher du taf. Là, je trouve un taf, donc un petit boulot dans un resto. Donc, très bien, je me suis dit, ok, c'est cool. J'ai fait 15 jours en test dans ce resto. Puis après, ça s'est bien passé. Donc, la manager voulait me proposer un contrat que j'étais prête à accepter. Et là, comme par hasard, bam, je reçois un coup de fil de la chaîne de télé. Qui me dit qu'il cherche des gens pour faire des remplacements, justement, en tant que caméraman et monteur. Donc là, je me suis dit, c'est fou, parce que ça fait 3 ans que je galère, et là, d'un coup, j'en ai 2. Sauf que, bah, évidemment, j'ai mis la priorité sur le boulot télé. Donc je suis allée à l'entretien à Enerco. Et donc là, ça s'est super bien passé. Moi, j'étais pas à l'aise du tout, hein, évidemment. C'était un des premiers boulots pour lesquels je faisais l'entretien en norvégien. Donc j'étais hyper, hyper stressée, mais ça s'est bien passé. Et d'ailleurs, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe dans le milieu du travail en Norvège, il y a une petite anecdote que j'ai déjà raconté dans une des interviews que j'ai faites. Je crois que c'était dans celle pour embarquement immédiat, mais je vous la re-raconte là parce que ça peut vraiment bien refléter pour le coup l'ouverture des Norvégiens, enfin comme moi je trouve en tout cas, hein, je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord là-dessus. C'est que donc du coup j'ai fait cet entretien à Enerco et puis ils m'ont dit ok bah super. Donc le logiciel de montage, c'était un autre logiciel que celui que j'avais l'habitude d'utiliser. Et puis moi, en France, j'étais que monteuse vidéo, je filmais pas. Et là, ils avaient besoin de quelqu'un pour faire les deux. Donc c'est l'équivalent de un peu du poste de JRI en France. Donc fallait filmer et faire du montage. Donc comme c'était pas exactement ce que j'avais l'habitude de faire, et puis que c'était le nouveau logiciel de montage, etc. J'ai fait une formation. Donc j'avais une formation d'une semaine pendant laquelle j'étais payée comme si je travaillais, donc c'était cool. Et puis en fait, c'était chaud parce qu'en fait en audiovisuel il y a beaucoup de termes évidemment techniques que je connaissais pas du tout en norvégien parce que moi ma priorité dans l'apprentissage du norvégien c'était le langage de la vie de tous les jours et pas les termes techniques, donc je connaissais vraiment pas grand chose. Donc mon collègue qui m'a formé était très sympa, très patient, etc. Mais c'était très intense parce qu'il y avait beaucoup de choses nouvelles. C'était très bizarre pour moi parce que j'avais quand même 10 ans d'expérience à Paris. Et là, je me retrouve dans une boîte en Norvège et en fait, j'avais l'impression de rien savoir, de rien connaître, de tout recommencer à zéro. Et ça, je pense que c'est une sensation que plein d'entre vous peuvent avoir en arrivant dans n'importe quel pays, hein, si vous partez à l'étranger, n'importe où. Mais si vous arrivez en Norvège, c'est vrai que même si vous avez la chance de réussir à trouver un boulot dans votre domaine, peut-être que vous allez au final avoir cette sensation de devoir un peu tout réapprendre et tout recommencer. Et c'est pas facile psychologiquement, moi ça a été un petit peu dur. Et puis vraiment tous les mots, tout le vocabulaire technique et tout, là c'était un peu too much en fait. Et du coup, je me suis dit, ça va pas le faire, je suis vraiment pas prête, j'ai pas le niveau de norvégien pour ça. Enfin, c'est trop tôt là, en fait, par rapport à mon niveau de norvégien, ça va pas le faire. Et puis j'avais l'impression de tout faire mal, de rien comprendre et tout, alors que en vrai, j'étais expérimentée dans ce domaine, donc c'était très bizarre. Donc je me suis dit, faut que j'en parle au chef. Donc je suis allée voir mon patron. Et du coup, je lui expliquais ça, je lui ai dit, écoute, je suis hyper contente que vous m'ayez donné l'occasion de faire cette formation et que vous vouliez me donner une chance. Mais en fait, ça va pas le faire. Et puis là, j'ai vu son visage, mais vraiment, mais il était choqué, quoi. Il me dit, ah bon, mais il me dit, je comprends pas. Il me dit, en plus, je viens de parler avec mon collègue, là, enfin, celui qui te forme, il m'a dit que t'étais super et tout, enfin... Il me dit, je comprends pas, qu'est-ce qui va pas? Donc je lui explique tout ça. Puis il me dit oui, après il me dit, je comprends complètement que ce soit difficile pour toi, que tu sois pas à l'aise, etc. Je comprends tout à fait. Et moi, en fait, j'étais en train de lui dire, du coup, je lui dis, bah, j'arrête en fait. J'avais une semaine de formation, du coup, là, j'avais fait trois jours, du coup je lui dis j'arrête, enfin laisse tomber, mais tu vois demain je reviens pas, ça sert à rien, je sers à rien quoi. Puis du coup il me dit bah écoute, de toute façon c'est réglé comme ça, t'as le contrat et tout, donc il me dit va au bout de la formation, il reste 2 jours, fais les 2 jours, et puis il me dit on discutera à la fin de la semaine, et puis si vraiment ça le fait pas, que tu veux pas, que t'aimes pas, etc., bon ben on te rappellera pas quoi, mais... Il me dit, fais les 2 jours qui restent, c'est trop con, là, t'as fait 3 jours. Bon. Alors bon, c'était mon boulot de rêve dans la boîte que j'ai toujours visée. Même quand j'étais à Paris, je m'étais toujours dit, je rêve de travailler pour Enerco. Voilà, donc là, j'y étais, tout ça. Je me suis dit, bon, je peux pas dire non, quoi. Donc j'ai dit, ok, je continue ces 2 jours-là. Et puis, en fait, ils m'ont un peu piégée parce que du coup, le lendemain, ils m'ont envoyé en direct. C'est-à-dire qu'en fait, le boulot donc, pour lequel je postulais, c'est un boulot qui est très intéressant parce que c'est assez varié. Donc je filme, alors quelquefois je vais filmer des images dehors avec un journaliste, puis je reviens au bureau, on fait le montage ensemble. Quelquefois je filme des images, mais c'est pour un autre bureau, donc j'envoie les images après par réseau. C'est pas moi qui fais le montage. Quelquefois, à l'inverse, moi je reçois des images que quelqu'un a filmées et je fais que le montage. Et puis quelquefois, c'est des directs, donc c'est des lives pour le JT qui est en direct. Tous les soirs, je suis en direct en train de filmer un journaliste qui fait une intervention. Donc j'avais, pendant mes 3 premiers jours de formation, j'avais eu des exercices pour faire ces directs-là, que j'avais jamais fait de ma vie. Et donc, la grosse difficulté de ces directs-là, c'est que donc, j'ai ma caméra qui est reliée à un petit boîtier de direct qui fait que donc je peux être en direct avec la régie. Donc ça c'est pas très dur, hein, c'est juste un petit peu de technique à apprendre, mais c'est pas très difficile. La grosse difficulté c'est qu'en fait je dois avec mon téléphone portable appeler la régie, et là je dois mettre une oreillette, et j'ai dans l'oreillette le Real qui se trouve soit à Oslo, soit à Bergen, soit à Porsgrunn pour les infos régionales pour lesquelles je travaille. Et là, le Real, il me parle, en fait, dans l'oreillette, en norvégien. Du coup, il me dit, attention, direct dans 2 minutes, tiens, déplace-toi un peu sur la droite, attention, parce que derrière, il y a un truc, là, je voudrais pas. Et voilà, et du coup, avec mon tout petit niveau de norvégien, je me suis dit, mais c'est mort, c'est pas possible, mais jamais. En direct, quoi. Genre, si je comprends pas ce que le mec, il me dit, je vais faire n'importe quoi. Enfin, c'était ouf. Et en fait, ils m'ont un peu piégée, parce que du coup, pendant cette formation, le 4e jour, eh ben, ils m'ont envoyé en direct. Ils m'ont envoyé au feu, quoi. Et du coup, j'y croyais pas quand ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit, écoute, on est désolé, il n'y a personne d'autre, faut que vous y alliez ce soir, c'est comme ça. Donc du coup, je me suis retrouvée en direct avec un collègue journaliste, et puis ça l'a fait. Je vous dis pas dans quel état de stress j'étais. J'avais la caméra qui tremblait un petit peu. J'étais vraiment hyper stressée. J'ai mis plusieurs heures à m'en remettre après. mais au final, ça s'est bien passé. Et puis du coup, à la fin de la formation, mon chef est venu me voir. Puis il me dit, bah, tu vois, ça s'est bien passé en fait. Donc, tu veux continuer ou pas? Et là, j'étais comme une conne parce que je me suis dit, c'est difficile à cause de la langue, mais c'est le boulot de rêve en fait, donc je peux pas dire non, c'est impossible. Donc du coup, j'ai dit, si c'est ok pour vous, que je parle pas trop bien, mais bon, je leur ai dit, je prends des cours de norvégien, donc je vais progresser, je vais être meilleure. Et puis du coup, ils m'ont dit, ouais, pas de souci, non, pour nous, ça va, c'est cool, enfin... Donc voilà, donc j'ai commencé comme ça pour Enerco. Et puis ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que je travaille pour eux comme freelance. Donc ça, c'est très très cool. Ça rejoint aussi je pense que je ferai un podcast aussi à part entière là-dessus sur l'intégration sociale, sur comment sont les Norvégiens, etc. Ça, c'est pareil, il y a plein de regards différents. Il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé, qui ont eu que des mauvaises expériences, qui... c'est pour ça que j'essaye aussi de pas vous donner que mon point de vue, mais de vous parler aussi d'autres cas de figure. Parce qu'il y a eu plein de gens qui ont eu des expériences différentes concernant l'intégration en général et le fait de trouver un travail. Mais c'est vrai que moi, je trouve que les Norvégiens, en règle générale, sont quand même hyper open, hyper indulgents, hyper... tous les entretiens d'embauche que j'ai passés avant, les gens, ils étaient là, non, mais c'est cool, tu te débrouilles bien, tu parles bien, tu vas progresser, il n'y a pas de souci, on voit que tu as envie, que ça va le faire, c'est bon. Enfin, en France, ça ne marche pas comme ça. Hein. Vous imaginez, en France, quelqu'un qui ne parle pas français, qui parle pas genre bien anglais et qui cherche du taf, c'est pareil, c'est super dur en fait. Donc voilà, ça c'est pour mon expérience à moi, en tout cas à Tønsberg. Je sais que de tous les Français que je connais qui sont dans le Vestfold, donc qui ne sont pas à Oslo, ça a été quand même difficile hein, de trouver du travail en règle générale, même pour ceux qui parlaient couramment norvégien, si on cherche un boulot dans une branche précise, ça reste compliqué. Pourquoi ? Parce qu'en Norvège, la Norvège, c'est un petit pays. C'est un petit pays. Alors, c'est un pays qui est large et qui est étendu en superficie, mais c'est un petit pays en termes de population. Il n'y a que 5 millions d'habitants. Donc, du coup, il n'y a pas beaucoup d'opportunités, il n'y a pas beaucoup de travail. Les postes sont pris, en fait. Les places sont chères, donc c'est en ça que c'est difficile de trouver un travail en Norvège, surtout si vous cherchez un travail bien précis, ça peut être vraiment difficile. Donc encore une fois, il y a une différence entre le reste de la Norvège et Oslo, je dirais Oslo et Bergen, Stavanger, les grosses villes. Mais c'est vrai qu'à Oslo, c'est plus facile de trouver un petit boulot. Même l'été, hein, y a beaucoup de saisonniers. Oslo, c'est une ville qui est très touristique, donc il y a beaucoup de restos, de bars et de restos qui embauchent des jeunes ou des étrangers qui parlent pas forcément norvégien pour la saison. Donc c'est possible. Encore une fois, y a aussi plein de sociétés internationales pour lesquelles parler anglais suffit. Et puis certaines boîtes norvégiennes aussi qui travaillent à l'international qui demandent pas forcément tout de suite un gros niveau de norvégien. Après, l'avantage aussi avec ces sociétés-là, c'est que vous pouvez aussi vous faire payer les cours. Donc ça, c'est cool, vous pouvez dire moi je parle, si vous parlez couramment anglais et que votre boulot se passe en anglais. Dans la plupart des grosses sociétés, il y a possibilité de prendre des cours de norvégien. Donc ça, si vous avez l'opportunité de faire ça, évidemment, faites-le, hein, parce que se payer des cours privés, c'est quand même un budget conséquent. Donc même si vous avez les moyens et que votre situation est cool financièrement, si votre boîte peut vous payer les cours de norvégien, c'est toujours ça de prix. Il y a un livre aussi qui peut être intéressant, qui a été écrit en anglais, qui s'appelle How to Find a Job in Norway. Et alors, je ne l'ai pas lu, mais j'ai entendu beaucoup de bien de ce livre. Donc, il y a certainement plein de conseils très intéressants à trouver. Donc voilà, c'est une lecture que je vous recommande. Donc voilà, encore une fois, pour résumer un petit peu la situation générale, à part pour des postes d'expatriés à Oslo ou dans les grosses villes, et puis pour quelques boîtes internationales, à mon sens, il est très difficile de trouver un travail en Norvège si on ne parle pas norvégien. J'en ai fait les frais, beaucoup de Français en Norvège avec qui j'ai discuté en ont fait les frais. Je ne dis pas que c'est impossible, je ne dis pas que c'est extrêmement difficile, mais je dis que c'est pas facile et que ça peut représenter peut-être un petit peu plus de difficultés que ce que vous pouvez anticiper et imaginer au début quand vous êtes en France. Je voulais aussi faire une petite parenthèse sur les stages, parce que c'est une question qui revient aussi souvent sur les groupes Facebook des Français en Norvège, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Norvège, les stages d'entreprise, c'est pas aussi commun qu'en France, en fait. C'est pas impossible d'en trouver, mais c'est pas hyper facile. Et puis, si il y a quelques postes qui sont ouverts pour les stages, c'est compliqué pour des étrangers en fait de venir en Norvège en stage. Pourquoi ? Pour plein de raisons. Parce que donc très souvent c'est lié à la langue aussi. Hein. Même si c'est une société internationale, de toute façon en Norvège, vous serez quand même amené à utiliser un petit peu le norvégien. Donc c'est assez compliqué pour les sociétés de prendre des stagiaires qui ne parlent pas norvégien et qui n'ont peut-être pas un anglais parfait. Donc après, si vous parlez vraiment couramment anglais, ça peut être possible, mais c'est pas facile. Et puis surtout, la grosse difficulté, c'est clairement que la vie est chère. Donc, comme les stages sont pas forcément super bien payés, du coup, une fois que vous avez payé votre logement, votre bouffe et puis quelques sorties, il vous reste rien en fait. Donc, après, c'est des stages à prendre comme une expérience, mais c'est pas un stage qui va vous rapporter de l'argent et c'est très certainement un stage qui va vous en coûter. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. C'est pareil, j'en ai parlé dans le premier épisode sur l'intégration, mais pour vous donner un ordre de tarifs à peu près pour les logements à Oslo. Alors déjà, faut savoir que c'est très difficile à Oslo. Je dis Oslo parce que la plupart des gens qui viennent en stage, c'est à Oslo, Bergen ou Stavanger, les grosses villes. Mais c'est très difficile de trouver un logement pour de courte durée en fait. Genre une chambre en coloc en courte durée, c'est très difficile. Pourquoi ? Parce que c'est très demandé, qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent et que du coup les gens mettent la priorité à ceux qui cherchent à longue durée en fait, parce qu'ils n'ont pas envie de rechercher des gens après, etc. Donc c'est assez compliqué de trouver une chambre. Je sais qu'on peut se rapprocher des sociétés étudiants, des campus, etc. Mais si vous n'êtes pas en règle générale étudiant en Norvège et que vous êtes stagiaire, ça risque d'être compliqué. Et puis en termes de budget, il faut compter par exemple à Oslo, je dirais entre 600 euros et 800 euros à peu près pour une chambre en colocation. Je pense pas qu'il y ait possibilité de trouver grand chose en dessous de 500-600 euros. Pour une petite chambre en coloc en centre-ville, donc c'est quand même un gros budget, c'est assez cher. La nourriture, c'est cher, faire les courses, c'est cher, prendre les transports, c'est cher. Là, à Tønsberg, par exemple, un ticket de bus, c'est 37 couronnes, donc c'est presque 4 euros. Donc si vous faites l'aller-retour en bus, ça fait 8 euros par jour. Donc presque 10 euros par jour de transport, c'est quand même assez énorme. Enfin voilà, tout est cher. Donc du coup, même si vous êtes payé, que vous avez un petit salaire pour votre stage, du coup ça va partir en fumée vraiment très très vite et du coup il restera pas grand chose. Donc voilà, encore une fois, c'est pas impossible. Il y en a plein. Hein. Enfin moi je connais des sociétés qui utilisent des stagiaires et pour qui ça se passe très bien, mais bon, faut je pense qu'au final, il faut quand même avoir un peu d'économie et que c'est une expérience qui peut coûter un petit peu d'argent, quoi. Donc voilà, faire attention en termes de budget. Et bien voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire, des petits conseils à donner pour trouver un travail en Norvège. J'espère que ce podcast vous a été et vous sera utile. N'hésitez pas à partager le podcast et puis à mettre des petites étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter ce podcast. C'est le seul moyen pour le faire remonter un petit peu dans les listes de podcasts pour que ça puisse servir au plus de personnes possible. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Hadé !